Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Jérôme Notin.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulot. Alors, la semaine dernière, le Premier ministre a présenté la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Alors Hervé, dans les grandes lignes, de quoi s'agit-il ?
Ah, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la mise à jour de ce qui avait été fait il y a 5 ans, c'est-à-dire que la nation comprend enfin que le numérique, ça fait partie de l'avenir de la société, et que le numérique sans sécurité, c'est pas possible. Alors, le ministre nous a présenté un magnifique programme en 5 grands points sur la stratégie de la sécurité pour le numérique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand même, Manuel Valls, il est arrivé, il s'est assis sur l'estrade et il a consciencieusement écouté les autres avant de faire son discours. C'est quand même pas mal. Il y a une stratégie nationale, effectivement, qui est découpée en 5 grands objectifs. D'abord, autour des intérêts fondamentaux de la défense et de la sécurité des systèmes d'information de l'État et des infrastructures critiques. Bon, on a déjà vu tous les effets de tout ça par la croissance de la NSSI, par les programmes de qualification, et puis bientôt, on aura les arrêtés fixant les règles pour les OIV. Un deuxième point sur confiance numérique, vie privée, données personnelles, cybermalveillance. Donc protéger l'ensemble des concitoyens dans la mesure du possible contre toutes ces cybermalveillances qu'on a aujourd'hui. Ensuite, sensibilisation, formation initiale et formation continue. Ben, bien sûr, moi je peux que me satisfaire de ce point-là. D'ailleurs, la plupart des RSSI, quand vous discutez avec eux, leur retour d'expérience est souvent que finalement l'aspect sensibilisation dans l'objectif de changer le comportement des gens était quelque chose qui leur semblait un peu abusivement rabâché par les consultants, mais que au quotidien, à l'intérieur d'une entreprise, c'était finalement l'aspect le plus important et le plus prenant par rapport aux aspects politiques, appréciation des risques, mesures de sécurité, gestion des incidents ou je ne sais quoi. C'est l'aspect sensibilisation le plus important. Donc là, l'État l'a compris et l'a mis dans ses grands points. Ensuite, environnement des entreprises du numérique, politique industrielle, export et internationalisation. Là, il y aura effectivement beaucoup à débattre. Quand on lit dans le détail, il n'est pas certain que la France ou l'Europe ait les moyens de ses ambitions. À l'heure où l'introduction le dit elle-même, il y a une domination nord-américaine sur les données. Il y a une industrie du logiciel aujourd'hui qui est principalement américaine sur la planète, mais l'autre pays du logiciel, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Donc ce sera peut-être un peu plus délicat avec ce dernier point, souveraineté numérique, stabilité du cyberespace. Alors maintenant, on peut détailler... Ouais.
Je suis pas tout à fait d'accord sur la Chine, parce que c'est un gros fabricant de hardware. Au niveau logiciel, il n'y a pas grand-chose qui s'exporte de chez eux. À la limite, je mettrais plus l'Inde comme éditeur logiciel. Enfin,
ou dans notre domaine, on a peut-être oublié le cinquième objectif, non ?
Alors, j'ai pas parlé. Le cinquième objectif, c'est Europe, souveraineté numérique, stabilité du cyberespace. J'ai pas parlé de la Chine comme un pays qui exportait du logiciel. Ta remarque est absolument très intéressante. L'industrie du logiciel en Chine est inconnue ou est mal connue peut-être de nos auditeurs, mais c'est de très loin la deuxième industrie et la seule d'envergure planétaire derrière celle des États-Unis. Et pourquoi elle est méconnue ? Elle est précisément méconnue parce que la Chine n'exporte aucun logiciel. Les Chinois font des logiciels pour eux-mêmes et ils ont une telle croissance interne et de tels besoins en interne qu'ils ont autre chose à faire qu'à exporter. Mais je vais prendre l'exemple de la sécurité. La sécurité est tout à fait significative. En quelle année McAfee, aujourd'hui Intel Security, a abandonné la Chine ? Il y a plus de 5 ans déjà. Qu'est-ce qui reste comme société occidentale dans notre secteur de la sécurité des systèmes d'information en Chine ? Il reste encore Cisco et Symantec, c'est tout. Et la totalité des produits de sécurité, donc des logiciels de sécurité, sont chinois en Chine depuis belle lurette. Donc il y a une immense industrie du logiciel, simplement nous ne la voyons pas. Et aujourd'hui, l'Europe n'est pas, de ce que je constate, hein, c'est pas un souhait que j'exprime, moi je souhaiterais que l'Europe soit beaucoup plus performante, mais aujourd'hui, la seule contrebalance qu'il peut y avoir aux États-Unis, ça reste la Chine. Donc je pense qu'il y a des points qui sont, quand on dit souveraineté numérique, c'est un vœu pieux. Hein.
Y a pas Kaspersky aussi en Chine ? Les relations russes Russie-Chine sont assez développées quand même.
Alors je reconnais que la dernière fois que j'ai regardé, peut-être que Kaspersky est un nouvel entrant en Chine. J'ai pas vérifié récemment. Et c'est vrai que vu les tensions entre les relations Est-Ouest, je suis très prudent. Est-ce qu'on peut mettre la Russie dans l'Occident ? C'est un peu ambigu aujourd'hui. Bon, alors le premier objectif, hein, sur les intérêts fondamentaux, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ? Bon, sur les intérêts fondamentaux, c'est du bon sens, hein. Je veux dire, ils ont rappelé l'état de la menace.
C'est plus pour moi que, enfin, c'est renforcer encore le rôle de l'ANSSI, hein. Tel que ça a été présenté, c'est comme ça que j'ai compris, moi.
Disons que c'est une simplification, mais c'est pas faux.
Bah, il y a quand même un point intéressant dans le document, si tu le lis, c'est pas marqué Agence nationale de la sécurité et système d'information, c'est marqué Autorité nationale de la sécurité.
T'as remarqué, ouais. Alors, bah, ça fait longtemps que c'est une autorité, hein. Et les gens n'en parlent pas, mais
enfin, oui, mais tu sais, enfin, il y a déjà de nombreuses années que on parlait de Patrick Payou en disant ministre de la cybersécurité de Sarkozy 2017. Donc, est-ce que effectivement la NSSI ne deviendra pas carrément un secrétariat d'État? On peut pas savoir. En attendant, c'est une autorité.
Ça va le devenir, mais effectivement, ça a changé d'agence à autorité, puisque vous avez un pouvoir aujourd'hui relatif, hein, mais auprès des OIV en particulier. Donc,
En tout cas, il change pas de nom, il reste agence.
Bah, il reste ANSSI, après, il reste à savoir ce que c'est que ce A.
Bon, donc, avoir les capacités scientifiques, techniques, industrielles à la souveraineté, bon, c'est un objectif naturel, si l'État l'a pas, personne l'aura. Assurer au profit de l'État et des citoyens une veille en matière de sécurité, c'est ce qu'ils font déjà, hein, le CERT-FR le fait. Accélérer le renforcement de la sécurité des systèmes d'information de l'État, bon ben, ça n'est que la poursuite de ce qui était déjà fait. Préparer la France et les organisations multilatérales dont elle est membre à faire face à une crise informatique majeure. Bon, il y a des entraînements, hein, pour ça, c'est déjà fait, donc là aussi, c'est la poursuite de ce qui est déjà fait. Développer une pensée autonome et conforme à nos valeurs. Alors ça, c'est vrai que dès qu'on va toucher à certains concepts, il y a des différences, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'Occident, entre certains pays d'Europe et les anglo-saxons.
Mais quand il est dit autonome, là, c'est autonome franco-français ou autonome avec l'Europe ?
C'est forcément franco-français, parce que si tu regardes... entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou l'Italie, les approches de la sécurité ne sont pas du tout les mêmes.
Et tu as raison de poser la question, c'est bien une pensée autonome par la France. Hein. Là, c'est vraiment une pensée autonome et conforme à nos valeurs dans le cyberespace propre à la France. Même si la France s'intègre dans le paysage européen, là, c'est clairement la France qui a, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de sa propre pensée stratégique autonome. Et c'est la poursuite de ça, de Gaulle Inside. Hein.
Exactement, et qui veut poursuivre justement sur le fait que la France ait une place singulière sur la scène internationale. C'est ce qui est écrit dans le document.
Et concernant la première orientation donc du premier pilier, détenir les capacités scientifiques, techniques et industrielles, finalement ça passe par les gens, donc les compétences des gens. Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de garder les compétences en France et pas qu'elles partent à l'étranger, typiquement aux États-Unis ?
Alors, le document n'a pas du tout traité ce point, comment assurer nos capacités scientifiques en faisant en sorte que nos meilleurs scientifiques restent en France. Chacun sait qu'il y a effectivement énormément de grands experts sécurité français partis à l'étranger, dans un certain nombre notamment de pays anglo-saxons. C'est un problème qui n'a pas du tout été abordé, qui, à ma connaissance, n'est pas abordé, mais j'ai pas tout lu, hein.
Est-ce qu'il est vraiment significatif, c'est ça le point aussi.
Bah, je crois que c'est quand même significatif.
Alors oui, c'est significatif, oui.
Le problème général de ce document, c'est qu'il définit des orientations en disant il y a qu'à Faucon, mais enfin il n'y a pas d'implémentation concrète.
Bah, ça vient en deuxième phase. C'est une politique, hein, justement, c'est très méta, donc.
Ouais, mais une politique, t'es quand même censé aider à trouver les solutions, voir les données.
Oui, mais on voit pas comment ils vont avoir les moyens des ambitions, effectivement, sur certains points. Et le départ des experts français en sécurité à l'étranger. Bon, moi, je vais donner l'exemple déjà de la Silicon Valley. Quand tu vois le nombre d'ingénieurs français et qui ont fait des belles écoles qui sont en Californie, c'est tout à fait significatif. Enfin, je veux dire, c'est des quantités non négligeables des promotions et parmi les meilleurs qui émigrent. Bon, dans le cas de la sécurité, moi, je connais tellement de gens qui sont en Australie que je peux être que sensible à la situation. Moi, ça me semble pas significatif, surtout que c'est vraiment les meilleurs. Donc, il faut pas considérer, ah oui, c'est que 2 ou 3% des gens qui s'en vont et qui émigrent à l'étranger. Et puis, de toute façon, c'est bon pour la planète qu'il y ait des échanges internationaux. Peut-être certains reviendront après. Oui, j'en ai un qui est revenu, mais enfin... un sur beaucoup plus, donc c'est pas significatif non plus. Moi, je pense que c'est un véritable problème, mais c'est un problème planétaire dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'il faut pas oublier, c'est que nous, la France, on attire tous les meilleurs d'Afrique. Donc, certes, on perd des gens qui vont aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, mais on en attire peut-être plus. Qualitativement, quantitativement, bien sûr, on en attire beaucoup plus, mais qualitativement, on perd pas forcément au change. Donc, on est un pays au milieu, je dirais. Peut-être, on a quand même les moyens de nos ambitions.
Oui, enfin, après, il y a un problème aussi avec les étrangers. Enfin, toi qui donnes encore des formations, des cours, effectivement, il y a beaucoup de Marocains, de Tunisiens, et ils sont pas habilitables. S'ils ont pas la nationalité française, ils sont pas habilitables.
Ils sont pas habilitables facilement, mais ils peuvent l'être quand même dans certains cas particuliers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont occuper des postes en sécurité qui sont importants et qui leur sont accessibles. Et ça va libérer d'autant plus des experts français qui, eux, sont habilitables. Donc, ça joue quand même sur l'assainissement du marché. Bon, la question de Vladimir est pertinente, puisqu'il n'y a pas la réponse dans la politique qui a été présentée par Manuel Valls. Hein. Alors, deuxième objectif, la France développera un usage du cyberespace conforme à ses valeurs et protégera la vie numérique de ses citoyens. Elle accroîtra la lutte contre la cybercriminalité et l'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Ça, je pense que c'est utile, parce qu'aujourd'hui, les victimes d'actes de cybermalveillance sont relativement démunies, tant que leur banque leur dit pas « ok, d'accord ». Donc oui, il y a sûrement une action à faire en la matière. Maintenant, protéger la vie numérique des citoyens, c'est important. C'est pas facile. Je sais pas comment ils vont s'y prendre. Surtout que ce qui est marqué dans la politique, ça reprend des vieilles techniques qui ont déjà été mises en œuvre et qui ont montré une certaine faible efficacité.
Et puis surtout qu'il y a aussi un gros problème face à la criminalité. Autant quand tu es dans le monde physique, quand tu es policier et gendarme, tu gères la criminalité locale. Dans le monde numérique, c'est la planète entière contre toi. Donc c'est très difficile et surtout tu n'as pas la possibilité d'arrêter à chaque fois les criminels.
Non mais justement, ce qui est intéressant dans ce point 2, c'est qu'ils vont inciter à ce que les gens portent plainte. Alors après, qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Mais c'est le dernier mot, la dernière phrase du deuxième « apporter une assistance de proximité aux victimes d'actes de malveillance ». Donc c'est la mise en place d'une plateforme de réponse qui va inciter derrière, en plus d'apporter des solutions et de mettre en relation avec des prestats, qui va inciter à ce que les gens aient porté plainte. Alors après, une fois de plus, ce que ça va donner, on verra, mais...
Moi, je suis prudent, puisque tu sais, ils ont déjà fait des efforts pour faciliter la plainte avec la plainte en ligne. Bon, moi j'ai discuté avec les gens qui ont testé la plainte en ligne. La plainte en ligne, c'est juste la garantie d'obtenir un rendez-vous à une heure fixée et donc d'éviter de faire la queue.
La prise de rendez-vous, ça n'a rien à voir.
La plainte en ligne, c'est juste avoir un certificat pour ton assurance.
Non, là vous éloignez. La plainte en ligne, ça te permet de modéliser ton problème par avance. Sauf que tous les efforts que tu fais pour remplir ta plainte en ligne, il faut compter quand même 2 à 3 heures pour faire une plainte en ligne, alors que bien concentré, je pourrais tout écrire en 45 secondes. Donc, mais tes 3 heures-là, elles te servent que à pas faire la queue, ce qui est déjà très intéressant au commissariat. Mais le fonctionnaire de police, il recommence tout à zéro quand t'es face à lui. Il tient pas compte des 3 heures que t'as passé à remplir en ligne. Donc, si tu veux, il y a une faiblesse dans la mise en œuvre des dispositifs qui me semble de toutes les manières disproportionnée avec l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif d'apporter de l'aide locale aux victimes, bah c'est gentil comme objectif, mais il n'y a ni les compétences, ni le temps, ni les moyens pour pouvoir le faire. Et on est réaliste. Bah,
c'est des choses qui sont pas sur du très court terme, justement. Ça induit le fait, derrière, que les forces de police et de gendarmerie soient formées pour la prise de plainte.
Alors, pour répondre à la question sur l'aspect international, bah, ils le disent, hein, on veut renforcer les mécanismes opérationnels d'entraide judiciaire. Mais de toute façon, tant que l'entraide judiciaire est pas automatique, on sait bien que les voleurs, ils vont plus vite que la police, hein. Donc sur le monde numérique, il n'y a pas le choix. Après, bon, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils vont fournir une identité numérique à tous les citoyens. Donc là, ils s'y engagent formellement.
Mais ils sont obligés avec le règlement européen EIDAS. Enfin, l'Angleterre a déjà dit qu'elle allait prendre un truc. Je crois qu'ils font des expérimentations avec Facebook comme source d'identité, et du coup, ça aura une validité au niveau européen. Donc les autres pays ont intérêt à se réveiller, sinon tout le monde va s'identifier à la sécu avec son compte Facebook.
Est-ce que vous avez lu dans le même paragraphe, c'est quelque j'ai relu juste avant qu'on échange là, dans le même paragraphe où on parle d'identité numérique, on dit pour les usages les plus sensibles, tels que ceux concernant la vie démocratique ou les échanges internationaux relatifs à la justice. Donc, est-ce que vous pensez que ça induit le vote électronique? Parce que la vie démocratique, c'est le vote électronique pour moi.
Clairement. Oui.
Le vote électronique, ça veut simplement dire qu'il y a une machine qui te sert à voter. Là, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus fort. C'est le vote en ligne.
C'est le vote en ligne,
à distance,
raison,
par Internet. Oui. C'est beaucoup plus que le vote électronique. Alors, le vote en ligne a déjà été utilisé pour les Français de l'étranger. Et c'est une très bonne chose en sécurité, puisque le principal risque des Français de l'étranger, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'accident de voiture. Et comme les Français de l'étranger font des centaines de kilomètres en voiture pour aller voter dans les consulats, eh ben, le fait de leur permettre de voter en ligne par Internet, ça a sauvé la vie de beaucoup de Français. Donc c'est un très bon projet.
Le problème du vote en ligne, c'est qu'en cas de compromission, tu peux voter ce que tu veux.
Il n'y a pas besoin de compromission. Le problème du vote en ligne, c'est que tu sais pas qui est devant le clavier au moment
oui,
du vote.
Oui, tu sais pas qui a voté. Effectivement, oui, si un mari menace sa femme et l'oblige à voter contre sa volonté, voilà, tu peux pas le vérifier. Alors qu'à l'isoloir, t'as la possibilité d'être sûr que la personne est toute seule. Et tu as aussi la possibilité de recompter les papiers, ce qui est plus difficile avec du numérique.
Mais c'est assez amusant. Enfin, je sais pas s'il faut qu'on débatte de ça aujourd'hui, mais ce que je remarque, c'est que c'est assez amusant que ce point-là n'ait pas été relevé sur Twitter ou ailleurs. Personne n'en a parlé.
Ah, ça n'a pas été relevé par la... Ben, autant le relever nous. Alors oui, effectivement.
Non, bien sûr. Ouais.
Le fait qu'on va se retrouver avec le vote en ligne.
Que ça soit dans la stratégie nationale, ouais.
Ah ben, c'est dans la stratégie nationale, oui.
Donc ça sera décliné réellement, ouais.
Tu sais, on n'est pas obligé de faire ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que une stratégie peut changer et donc on peut ne pas faire ce qu'on a écrit. Mais en tout cas, maintenant qu'on l'a écrit et que ben, c'est sûr qu'on peut se permettre de le faire sans problème. Et s'il y a quelqu'un qui dit « Non, non, mais vous aviez jamais dit que vous alliez faire ça », ah ben c'est trop tard, ils l'ont dit. On passe au troisième ?
Ouais.
Sensibilisation, formation initiale, formation continue. Alors, qu'on le dise à nos auditeurs tout de suite, hein, nous ferons des épisodes sur ces sujets. Un épisode sur les formations initiales, celles qui vont permettre aux étudiants d'entrer dans le monde de la sécurité plus facilement, enfin peut-être. Et puis, on fera aussi une émission sur les formations continues. Mais là, c'est écrit noir sur blanc, ben, il faut sensibiliser l'ensemble des Français, il faut intégrer la sensibilisation et il faut les former. Alors, intégrer la sensibilisation, c'est déjà ce qu'a déjà fait la NSSI, avec son programme et sa fourniture d'un support qui a vocation à être intégré dans tous les enseignements universitaires et toutes les écoles d'ingénieurs en informatique. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu la continuation de ce qu'ils font déjà. Donc, sensibiliser les Français, c'est plus complexe. Il y a déjà eu beaucoup d'initiatives dans le passé. Bon, ben, ils continuent. Maintenant, est-ce que ça marche quand tu vois la manière avec laquelle les gens utilisent une identification sur un site comme Facebook pour tout à fait autre chose? Je suis pas certain que la sensibilisation ait fonctionné.
Mais les gens n'ont jamais vraiment été formés à ça. Les gens sont arrivés, ils ont eu les outils numériques, ils n'ont jamais été formés, ne savent pas réellement comment ça fonctionne derrière, ne savent pas ce qui est fait des données, pensent que tout ce qui est posté sur Facebook est privé. Les gens sont juste pas sensibilisés du tout. Ils n'ont pas eu l'information.
C'est dans ce paragraphe où il parle de grande cause nationale.
Tout à fait, grande cause nationale, oui.
La grande cause nationale, c'est la sécurité routière, par exemple. Et on peut très facilement imaginer qu'il y ait des clips qui passent sur les chaînes publiques ou peu importe, qui sensibilisent justement à la sécurité, à l'hygiène, on va dire, informatique, pour le grand public, comme ça peut l'être pour les clips de sécurité routière.
Oui, puis leur initiative permis Internet dans les écoles, ça c'est très bien. Mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre.
Non, mais comme dit Vlad, aujourd'hui, si tu veux, personne n'éduque le grand public sur la sécurité informatique, sur l'hygiène. Mais
regarde la sécurité routière, est-ce que tu ralentis parce que tu as vu un clip à la télé ou parce que tu as vu un radar?
Les deux.
Non, tu ralentis parce que dans 5 ou 10 ans, tu auras les voitures autonomes, plus personne ne conduira, il n'y aura plus de morts, c'est tout.
Ouais, ça c'est l'étape ultime. Mais aujourd'hui, les coups de frein, tu les vois devant les radars, pas devant les postes de télé, quoi.
Tu regardes rarement la télé en conduisant, mais bon.
Non, mais tu vois l'idée.
Mais oui, c'est sûr. Non, mais je te dis les deux. Après, où est le curseur, je sais pas. Mais je pense forcément que ça a une incidence. Après, si tu veux remettre en cause absolument toutes les campagnes de sensibilisation, quel que soit le sujet, l'alcool, les femmes enceintes, ce genre de choses. Effectivement, tu peux dire que ça marche pas, donc on arrête. Mais si ça ne fait que sauver une vie, peut-être que ça a un intérêt.
Il y a quand même un ratio coût-bénéfice à calculer. Hein.
Sur les chaînes publiques, peut-être moins qu'ailleurs.
Mais après, il y a surtout toute une génération à rattraper, parce que bon, je suis pas très très vieux, mais j'ai jamais eu de cours d'informatique à l'école. Alors le permis informatique, c'est quand même assez récent. Tu as quand même une génération sur 15-20 ans qui n'ont jamais eu de cours d'informatique, qui aujourd'hui, on va dire, ont entre 30 et 50 ans, voire plus, qui sont pas du tout formés à ça. Donc là, c'est vraiment de la sensibilisation qu'il leur faut.
Imagine la génération d'après qui a 60 ans, je sais pas, comme le patron de la CIA, par exemple.
Ils touchent plus l'informatique, c'est fini.
Alors par contre, là où c'est un peu faible, c'est sur la formation continue, puisque vous voyez qu'il y a un tout petit paragraphe, ils en ont pas parlé sur place, et ils disent simplement, il faut recenser les besoins en formation continue. Donc, là, on aurait dû aller beaucoup plus loin, sachant que la formation est déjà dans les objectifs du plan 33. Et il y a des mécanismes de financement de la formation. Et aujourd'hui, aussi surprenant que ça puisse paraître, dans ces mécanismes de financement de la formation, il n'y a toujours pas la moindre formation continue en sécurité. Donc, c'est gentil de faire toutes ces politiques, mais quelquefois, la réalité pratique a vraiment du mal à suivre.
Mais là, j'attire aussi l'attention sur un autre point assez générique, c'est que ce document, contrairement à celui de 2011, il est vachement moins orienté militaire. Et là, si tu regardes, c'est sensibilisation du grand public, formation professionnelle, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui font vraiment de la formation continue, c'est les militaires. Enfin, quand tu vois les anciens militaires qui vont à la formation du BSI, enfin de l'ANSSI, qui dure un an, où ils font un an de cours avec les experts de l'ANSSI, ils ont quand même un autre niveau qu'un gars qui va 5 jours en formation sur son DIF, tu vois.
Alors, je ne sais pas sur quels éléments tu dis ils ont un autre niveau. Je pense que le niveau au final dépend déjà énormément du niveau à l'entrée. Des formations qui sont sur un an, il y en a beaucoup d'autres que celles de la NSSI. Et celle de la NSSI a peu de personnes chaque année, et donc sa production n'est pas significative à l'échelle du marché, ne serait-ce qu'en comparant à la pléthore de masters sécurité.
Oui, mais enfin, j'ai écouté une interview là justement il y a pas longtemps d'un militaire qui disait en gros, on a arrêté de penser qu'on allait recruter des gens directement formés. Maintenant, on les forme nous-mêmes et c'est beaucoup plus efficace. Donc, tous les gens qui montent dans la région rennaise et qui font carrière dans l'armée, maintenant, ils les forment directement sur place.
Eh bien, tu connais des sociétés de sécurité qui font pas la même chose et qui forment pas selon leurs besoins leurs ingénieurs?
Ah oui, mais ça rentrera pas dans le cadre de la formation continue. T'auras pas d'argent pour faire ça.
Bien sûr que si.
Toi, tu penses que la formation continue, c'est inciter les entreprises à faire du pair programming, aller faire les pentests en doublon, etc., pour former les jeunes? Parce que pour moi, le business de la formation, c'est un truc très très précis avec les OPCA, les DIF et les choses comme ça, quoi.
Pour moi aussi. Mais nous sommes vraiment dans là-dedans. C'est-à-dire, alors le DIF est devenu CPF, hein, donc il y a une obligation de résultat et qui va au-delà de l'obligation antérieure qui était juste de moyens, d'où le besoin d'avoir des certifications partout et en tout lieu. Mais la formation continue, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, les entreprises forment déjà leur personnel. L'objectif est qu'elles continuent à le faire de plus en plus.
Est-ce que je veux
en
dire,
sécurité.
Si tu veux partager l'information, il vaut mieux distribuer gratuitement des capsules Nespresso plutôt que de passer par des formations courtes, des choses comme ça. Parce que là, autour de la machine à café, l'information circule, les jeunes écoutent les plus anciens, ils récupèrent des tricks de pentest ou des astuces qui
sont à droite à gauche. Nicolas, on a l'impression que tu n'as jamais donné de formation et que tu n'en as jamais suivi. Dans une formation, il y a un partage d'informations intégral, total, et les gens progressent. Je veux dire, et dans une formation même d'une semaine, la personne, elle sait beaucoup plus faire de choses à la sortie qu'à l'entrée. Et c'est financièrement rentable.
C'est sûr, mais ça ne dure que quelques jours. Alors que l'intérêt de la formation continue, c'est que constamment, tu évolues, tu échanges avec tes pairs, avec des gens plus expérimentés.
Oui, non, mais tu parles du travail au quotidien, tu parles pas de formation continue. Bien sûr que l'idéal, c'est de faire des binômes avec un consultant expérimenté et un consultant qui l'est moins. Mais pour profiter d'une formation continue pleinement d'une semaine, pour en profiter pleinement, il faut effectivement tout de suite pratiquer derrière, mettre en pratique. C'est ça le... Mais bon, la formation continue, pour obtenir des analystes, des gens capables de comprendre les logiciels malfaisants auxquels ils ont faire face, de les détecter, de les isoler, etc. Moi, je suis désolé, il faut former les gens. Et pour ça, la réponse, ce sont des formations continues. Bah, c'est quoi l'autre réponse?
Non, mais si, oui, mais ça a un coût aussi.
Mais ça a un coût, mais qui est financé en France par les mécanismes qu'a cité Nicolas, comme les OPCA. Donc, c'est un coût qui est accessible, qui est raisonnable.
Oui, mais encore une fois, tu peux pas dépasser quelques jours par année de formation.
Oui, mais attends, tu vas en formation une semaine par an, c'est déjà vachement bien. Je veux dire, faut pas non plus demander la lune.
Mon point était plutôt de... Parce que tu avais l'air de dire que dans le troisième objectif du document, pour toi, la formation continue, ça incluait aussi enfin, à ce niveau-là, on peut dire que les associations de sécurité font partie de la formation continue, par exemple. Quand tu vas à une conférence, un after work ou autre, voilà. Non. On n'était pas d'accord sur ce point.
Pour moi, c'est pas du tout de la formation continue. C'est pas de la formation continue au sens du terme dans la législation. Dans la législation, une formation continue, c'est ce qui est financé par les OPCA. Après, le fait que toi, tu dois continuellement t'informer, rester au fait de l'actualité, progresser dans ton métier, et pour cela, tu dois profiter des associations pour discuter avec tes pairs et profiter des afterworks de l'OCIR, des réunions d'une association ou d'une autre, bien sûr, ça, c'est indispensable.
C'est de l'auto-formation.
Et c'est pas ce qu'on appelle... C'est de l'auto-formation. C'est pas ce qu'on appelle les besoins, recenser, anticiper les besoins en formation continue, ce qu'ils entendent par formation continue, là, au sens des objectifs de la politique gouvernementale, c'est pas aller dans des associations. C'est vraiment... le contenu d'une formation dans laquelle tu vas avoir un enseignement, un apprentissage, c'est-à-dire avec des exercices pour que ça te rentre dans la caboche et que tu saches refaire chez toi après.
Cyberédu, vous avez vu ou pas? Vous êtes allé voir?
Ah, je suis allé voir, j'ai trouvé ça bien.
C'est quoi? C'est des supports de formation, non?
C'est carrément des PowerPoint tout prêts. Tu peux rajouter le logo de ton école. Je pense qu'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs privés, diplômes non reconnus, qui vont rapidement templater les slides et le revendre à leurs élèves. C'est vraiment prêt à l'emploi, quoi.
D'accord.
Bah, c'était l'objectif du projet, hein. Après, bon, il y a eu des remarques sur Internet sur le contenu, mais ça relève du détail.
Ouais, comme d'habitude.
Les gens trollent sur Internet, c'est ce que c'est.
Avant de passer au 4, est-ce qu'on peut revenir
sur l'environnement des entreprises?
Attends, Hervé, sur le 2, il y a un truc, à mon avis, qui paraît important et qu'on n'a pas évoqué. D'en proposer des solutions techniques destinées à sécuriser la vie numérique accessible à toutes les entreprises et au grand public. Donc déjà, ça, c'est plutôt... plutôt pas mal, et il parle de soutien au logiciel libre.
Oui, donc le soutien au logiciel libre, c'est très important, et peut-être on n'a pas suffisamment relevé jusqu'à
c'est
présent sur Internet.
De ce qui a été annoncé, mais au moins il le rappelle ici, et, c'est plutôt bien, quoi.
Eh ben, c'est très très bien. Et sans les logiciels libres, la sécurité serait vraiment dans la panade, et il faut le rappeler, les gens oublient que toute la sécurité repose sur des briques de logiciels libres.
Un peu comme Internet.
Comme tout Internet en général, et la sécurité en particulier. Bien, donc on va passer au quatrième objectif, environnement des entreprises du numérique, politique industrielle, export et internationalisation. Qu'est-ce qui veut en parler? Ça commence par développer et valoriser l'offre nationale et européenne de produits et services de sécurité.
Il faut avoir des logiciels qui répondent à des vrais besoins, qui fonctionnent, qui ont des processus... de support et d'industrialisation sérieux, enfin, je veux dire, avec une vraie roadmap, etc. Et à ce moment-là, ça se vendra tout seul. Je veux dire, Docker, c'est quand même un logiciel français à la base, quoi. Enfin, qui a été démarré par des Français, boulevard Bessières, et puis bon, maintenant, ils sont...
Oui, maintenant, c'est trop vous.
Ils sont partis très vite aux US.
Ouais, c'est le problème. C'est dès que t'as un truc français qui commence à bien marcher, les gars veulent plus de financement, ils partent à l'étranger. Alors, Nessus, mais, ça a été le cas. Enfin,
mais c'est... écoutez, mais c'est normal. Vous pouvez pas conquérir la planète à partir de la France. Vous pouvez conquérir la planète qu'à partir des États-Unis. Donc, il n'y a pas de miracle. Tous les succès français qui n'ont pas de sens dans un marché hexagonal, mais qui ont un vrai sens sur le marché planétaire, ne peuvent démarrer, se lancer qu'aux États-Unis. Je me suis déjà fait allumer pour l'avoir dit un jour sur BFM, mais c'est la réalité. Et le meilleur conseil que j'ai donné dans ma vie à Renaud de Raison, c'est d'aller aux États-Unis. Et voilà, et c'est ce qu'il a fait, et avec des partenaires américains, et ça a marché. C'est normal. Par contre, si tu fais un logiciel médical, un logiciel social, un logiciel qui ne peut fonctionner que dans un marché franco-français où la moindre innovation sera quand même financée par la Sécu, bien que les hôpitaux soient en faillite, là, il y a un vrai intérêt à lancer ton innovation en France sur le marché français. Mais sur un logiciel de sécurité, sur un produit de sécurité qui s'adresse à un marché mondial, tu es obligé de partir des États-Unis pour conquérir la planète. C'était déjà vrai il y a 20 ans. C'était toujours vrai il y a 10 ans. Et quand je dis il y a 20 ans, c'était même vrai il y a 30 ans. Mais bon, c'était un peu... Hein. Et ça restera toujours vrai jusqu'à que la Chine prenne une position dominante en exportant son logiciel.
Mais c'est quand même triste d'entendre ça quand tu vois qu'au niveau de l'industrie, il y a quand même des fleurons de l'industrie qui sont français. De l'industrie mondiale. Donc tu peux te dire qu'au niveau de la sécurité, on pourrait quand même être capable de réaliser des produits de sécurité de premier plan et qui se vendent mondialement.
Tu penses à Dassault Systèmes, à Dailymotion,
Il y avait Dassault Systèmes et Feu Business Objects qui étaient avant français, mais
qui sont devenus américains. Donc oui, Business Objects. Mais oui, d'accord, mais c'est plus français.
Non, et est-ce que cette stratégie, est-ce qu'il y a des explications sur comment on va changer une situation qui dure depuis 40 ans dans cette stratégie?
Non, on dit juste qu'on va tirer parti des leviers offerts par l'Union européenne.
Est-ce que des fonctionnaires qui n'ont jamais travaillé dans le privé et qui ont encore moins créé des start-up vont produire une solution qui permet d'avoir des start-up innovantes en cybersécurité, enfin innovantes et surtout successful Je sais pas comment on traduit ça.
Il y a sûrement pas de solution magique parce que ça fait longtemps qu'on s'y essaye et effectivement ça marche pas. Maintenant, il y a un point intéressant, c'est la personne de la DGE, Loïc Duflo, qui disait, voilà, ils réfléchissent et à favoriser d'une manière ou d'une autre, et la solution elle est pas trouvée, mais les réflexions sont lancées, à favoriser les gens qui vont intégrer dans leur enfin, dans la conception, quand c'est des produits, dans l'organisation, dans les services, dans la qualité des services, l'aspect sécurité informatique, au sens très large, par rapport au marché public, par rapport à des subventions, par rapport à tout ce que l'État peut faire. Et pour moi, enfin, ce point-là, il est assez intéressant parce que justement, ça peut vraiment tirer vers le haut, naturellement, plutôt que d'être répressif, ils vont plutôt inciter. Et donc sur un marché public, tu réponds, c'est une connerie, hein, mais tu construis un immeuble, bah tu, comme t'as des contraintes de dans tes bureaux de sécurité incendie, ce genre de choses, qui sont que des contraintes, t'as pas de bonus. Le fait de se dire potentiellement, bah il y aurait des moyens de faire un bonus à cette boîte qui va avoir un système informatique sécurisé, à définir ce qui est sécurisé évidemment une fois de plus, mais la réflexion elle est intéressante. Et ce point-là c'est assez nouveau pour moi, et vu la manière en plus dont c'était présenté, je pense que ça peut être, ça peut donner des choses positives.
Mais j'ai pas l'impression que le problème ce soit d'avoir des startups innovantes et des gens avec des idées, parce justement. Que ça on en a. Le problème c'est plutôt de les garder et de les financer.
Mais financé par ça, si tu veux, c'est vraiment tout le tissu économique qui va être incité à se doter de moyens de sécurité informatique. Et c'est vraiment nouveau, hein. Enfin, je le conviens, hein. J'en conviens. Je sais pas si je m'exprime clairement par rapport à ça, mais ça potentiellement peut être une rupture.
Tu veux dire que, en gros, chaque objet connecté va avoir une obligation d'avoir un antivirus et
non, non, mais justement, c'est pas ça. C'est pas une obligation. Aura des points supplémentaires sur un marché public. Sur 100 points, bah, t'auras peut-être 3 points ou 2 points s'ils savent montrer qu'il est sécurisé. Et pas forcément l'objet connecté. Le fabricant de bouteilles de gaz, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et je trouve que la démarche est assez intéressante.
Non, mais il bénéficiera d'un facteur de bonification s'il est accompagné d'une analyse de risque en matière de cybersécurité correspondant à l'usage prévu du produit ou du service dans la réponse technique apportée. Ok, peut-être que je vais vendre des formations EBIOS.
Non, parce que moi, Luc Duflo parlait typiquement de subvention, mais au sens très large, pas que d'informatique ou de SSI. Et les mecs qui déposent un projet quelconque, et bah, s'ils démontrent le facteur SSI à un moment dans leur dossier, bah, ils auront des points de bonus.
Dans le quatrième objectif, il y a un peu plus que ça quand même, hein, parce que si tu lis, il y a aussi le transfert de savoir-faire vers le secteur privé, dans la matière de réponse aux incidents, par exemple, où tu as des choses sur la vie privée et la protection des données personnelles. Mais pour moi, le transfert de compétences vers le secteur privé, ça me semble complètement fou comme concept, quoi.
Ah bah aujourd'hui c'est plutôt le contraire, hein. C'est-à-dire le secteur privé donne tout et apprend du plus possible au secteur public et le secteur public garde tout pour lui.
Mais là ils ont l'air de dire que en gros ils s'y connaissent et qu'ils vont former, bon ce qui est pas forcément faux hein, de mon expérience, mais tu vois qu'ils ont une bonne expérience en réponse aux incidents et qu'ils vont former des gens dans le privé. C'est une position quand même assez audacieuse.
C'est une excellente position.
Oui, mais après, les gens dans le privé, je veux dire, une fois qu'ils sont formés, ils vont travailler chez Mandiant, tu vois. Enfin.
Parce qu'ils auront appris à parler anglais à l'école.
Non, parce qu'ils trouveront plein de clients en France, et donc ils n'auront pas besoin d'apprendre anglais.
Parce qu'il n'y aura pas de solution française, c'est ça?
Enfin, là, sur le coup de la réponse aux incidents qui est explicitement mentionnée dans le document, hein. Traiter l'inévitable croissance du nombre d'attaques informatiques, c'est pas une offre de produit, c'est une offre de service. Donc là, en gros, l'idée, c'est l'ANSSI s'érige en gros en formateur pour les futurs consultants qui travailleront dans les SOC, dans les services de détection, enfin de réponse aux incidents, de reconstruction. Les
PDIS, non, mais on pourra en reparler en parlant du PDIS, oui. des prestataires de détection d'incidents de sécurité.
Ok, donc on passe au cinquième point.
Ah bah oui, le cinquième point. Europe, souveraineté numérique, stabilité du cyberespace.
Alors
là, là, cette fois, on reparle de l'Europe. Hein. La France sera volontaire, sera le moteur d'une autonomie stratégique numérique européenne.
Donc là, c'est bien de le dire.
Ah ben là, on passe à l'Europe. C'est-à-dire que on fait d'abord la souveraineté nationale, et puis ensuite, on essaye d'être moteur au niveau européen pour faire une feuille de route à l'échelle européenne, évidemment à l'image de la feuille de route sur laquelle nous sommes ce soir. Pourquoi pas ?
Bah, il faut de l'ambition, hein.
Exactement. Moi, c'est d'accord.
Tu votes pour ? Bon, mais moi, j'aurais quand même une autre remarque d'ordre général sur ce document. C'est l'absence totale de la société civile. Enfin, j'ai peut-être mal lu, mais il n'est pas du tout question du panorama associatif existant, de tout ce qui peut exister comme initiative dans le domaine du logiciel libre ou autre. Je sais pas, toi, tu l'as lu de A à Z, Hervé parce qu'à un moment, il est question de créer un comité d'experts, un groupe d'experts pour la confiance numérique, enfin, tu vois, recréer des choses qui potentiellement existent déjà, où il y a déjà des groupes de travail, et finalement... Bah, l'État arrive et dit non, mais nous on crée notre propre truc parce que c'est le bricolage.
Je te confirme que l'état d'esprit, c'est de contrôler et de créer ses propres structures. Je pense que moi je n'ai pas vu de mention effectivement à la société civile. Peut-être que l'État n'a pas jugé de le faire apparaître dans sa politique. C'est pas pour autant qu'il dénigre ou qu'il ignore l'existence de la société civile. Il s'appuie aussi beaucoup dessus et il y a beaucoup de gens de l'État qui participent à la société civile. C'est simplement que dans le cadre d'une stratégie nationale, il a appliqué le principe de Mao Zedong. Il ne faut reposer que sur ses propres forces. Et donc, dans cet état d'esprit-là, il recrée ou il fait lui-même de manière à être sûr de maîtriser et contrôler dans la durée.
Tu connais ce XKCD, nous avons 14 standards incompatibles, je vais faire un standard qui va tous les unifier, et résultat, nous avons après 15 standards incompatibles. Là, c'est un peu la même idée, non? Il y a déjà des initiatives dans tous les sens en matière, je sais pas, France Cybersécurité, c'est quand même un truc qui est un petit peu soutenu par les pouvoirs publics.
Attends. Là, tu parles d'un autre ministère. Attention. On n'est plus dans les services du Premier ministre. On n'est plus à la NSSI. Là, on change de ministère.
Ok, excuse-moi. C'est vrai que j'ai réalisé récemment à quel point la différence entre ministère et administration était importante, en particulier dans les missions d'Annecy. Et effectivement, j'avais pas réalisé que France Cybersécurité dépendait d'un autre ministère.
C'est transverse.
Ce qui est intéressant, c'est que lors de la présentation, alors malheureusement la présidente, je ne sais pas pourquoi la présidente de la CNIL n'est pas venue, elle n'a pas été remplacée, et donc on a eu le bonheur d'entendre Guillaume Poupard nous dire plein de choses très intéressantes, histoire de meubler le temps qu'arrive l'autre ministre. Donc les deux ministres de la présentation ne se sont pas croisés sur place, parce que le premier ministre était parti avant que Axel Le Maire arrive.
Oui, non, Axel Le Maire était au tout début de la table ronde quand le Premier ministre était là, Hervé. Hein.
Ah oui, pardon. Elle est repartie,
Elle est repartie, et quand Guillaume a parlé...
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Elle est secrétaire d'État, Axel Le Maire.
Oui, il y a une grosse différence entre un Premier ministre et une secrétaire d'État.
On revient à tous ces programmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, au final? Vous y croyez? Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir y arriver?
Moi, je pense que pour pouvoir y arriver, il faut déjà écrire ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. Le fait que la France soit capable de l'écrire clairement, de le présenter très clairement, c'est pas donné à tout le monde, et je suis très fier de mon pays pour cela. Après, il n'est pas dit qu'on va réussir tout ce qui est écrit dans cette stratégie. Mais bon, au moins on va essayer.
Moi, ce qui, si on doit rester vraiment sur la forme de la journée, c'était, je crois que ça devait commencer à 9h, discours du Premier ministre, j'ai plus en tête, mais genre 10h15, 10h30.
Oui, 10h30, oui.
Ouais, donc à 9h05, tout le monde est arrivé. Le Premier ministre, de 9h à 10h15, 10h30, a attendu, a écouté justement les autres discours, a regardé deux fois son téléphone, a fait une petite blague justement sur un téléphone sécurisé, machin. Donc voilà, ça veut dire qu'il suivait vraiment les débats. Il était vraiment concerné. Et effectivement, comme dit Hervé, ce point-là, il y a quelques années, ben, pour moi, il n'était pas forcément acquis. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'on a une étape supplémentaire.
Il y a peut-être aussi une prise de conscience généralisée de l'importance du numérique et surtout de la sécurité.
Mais on parlait de secrétariat, enfin de moi, je pense qu'il y aura un ministère de l'info, enfin, je sais pas comment on l'appellera, mais du numérique, avec un secrétariat d'État, c'est l'étape supplémentaire, et puis on va y arriver, évidemment. Un secrétariat d'État à la SSI, ou à la cyberdéfense, ou je sais pas comment on l'appellera.
Non, la cybersécurité.
Oui, pardon.
Parce qu'on a quand même un sacré retard à ce niveau-là par rapport à d'autres pays.
Mais non. On est en retard par rapport à quelques pays, mais je m'excuse, nous sommes en avance par rapport à la majorité de nos homologues européens.
Bah, les Anglais, les Allemands, tu crois qu'ils sont loin derrière nous ?
Mais non, j'ai pas dit qu'on était en avance par rapport aux Anglais, aux Allemands. Sur certains domaines, on est bien, sur d'autres, on est un peu en retard, mais on a aussi des domaines où je pense qu'on est mieux que les Anglais et les Allemands. Donc ça se vaut. Mais par rapport à
d'autres...
En tout cas,
je pense qu'on le rattrape largement, mais on, malheureusement, enfin bon.
Tu préfères être le dernier des premiers ou le premier des derniers ? Moi, je préfère être dans le peloton de tête, hein, quand même.
Oui, enfin...
Non, mais moi, personnellement, j'ai toujours été dans un peloton de tête, hein, donc c'est bon. Hein, moi, je suis leader sur mon marché. Hein, tu connais quelqu'un qui l'est pas. Maintenant,
non, mais j'ai l'impression
la
qu'on
France,
court après,
la France a, bah, attends, l'Angleterre, souvent, ils sont leaders juste parce qu'ils parlent bien anglais. Hein, donc, c'est facile hein, quand c'est ta langue maternelle, la langue de travail. Que... Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu beaucoup de réunions internationales. Hein, donc, franchement, nous, en tant que Français. On a des très bonnes réactions, des très bonnes idées, des très bonnes manières de faire. Moi, j'ai une comparaison qui est beaucoup plus entrée de gamme et beaucoup plus petite. La seule comparaison que je peux faire, c'est j'ai la chance de croiser des responsables sécurité dans des secteurs très divers, aussi bien du secteur public que des banques, que de la grande distribution, que de l'industrie. Et de temps en temps, j'en vois d'autres pays d'Europe. Moi, je vous dis franchement, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'Anglais qui me semblaient très compétents. J'ai vu parfois des gens d'Europe du Nord qui étaient compétents. On trouve des gens compétents partout, mais globalement, il y a quand même une maturité des gens qui sont en charge de la sécurité en France qui n'a rien à envier aux autres pays et qui m'a semblé franchement parfois meilleure que la maturité d'autres pays d'Europe. Alors, je pense pas à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, mais parfois aux Pays-Bas, parfois en Italie, parfois en Espagne. Bon, on peut se poser des questions. Je reconnais que les banques suisses font une bonne sécurité. Hein. Ça va, hein. Elles ont une bonne maturité sur la question. Et même maintenant, elles sont devenues un peu... Enfin, c'est pire que les militaires. Mais sinon, non, la France n'a absolument rien à envier à ses voisins européens. Et alors, quand on compare à des pays plus lointains, mais écoutez, le fait qu'il n'y ait pas eu de catastrophe à grande échelle au Japon, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie, ça relève du miracle. Ils sont parfois pas très doués.
Oui, eux ont encore peut-être plus d'années de retard que nous. En Amérique du Sud aussi, j'ai bossé avec eux récemment et ouais, c'est pas le même niveau.
En Amérique du Sud, je te confirme, il y a un vrai décalage. C'est-à-dire que parfois, tu trouves des RSSI d'Afrique du Nord qui ont une bien meilleure maturité que dans les pays que je viens de citer.
Ouais, tu parlais de ministère de la cybersécurité, mais moi, je tiens justement quand même à faire un compliment sur la stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui aurait pu s'appeler stratégie pour la cybersécurité digitale. Donc là, ils ont quand même...
Alors, digital en français, je rappelle à nos auditeurs, digital en français, c'est le doigt. Hein. Ça n'a aucun rapport, c'est un faux ami. Donc, c'est un mot qui est un contresens quand on veut parler du numérique.
Et il a quand même
été souvent accepté. Très mal employé.
Il a été accepté dans le dictionnaire.
Ah oui, alors, ça dépend des dictionnaires. L'Académie française ne le reconnaît pas.
L'Académie française ne le reconnaît absolument pas.
Non, non, mais par contre, le Larousse considère que digital est un synonyme de numérique, mais uniquement le Larousse.
Mais non, mais ça, c'est un usage des Français qui ne savent pas parler français. Non, non, on parle bien de numérique et on ne confond pas avec ce qui est relatif au doigt. Le digital, c'est ce qui est relatif au doigt. Les empreintes digitales, c'est aussi de la sécurité. Et ça, c'est le bon usage du mot digital en sécurité. Bon, après, peut faire confiance à une identification par empreinte digitale? Ça fera l'objet d'un autre épisode.
Bon, allez, pour conclure, alors, quelques mots, finalement, sur ces grands programmes.
Vive la France!
Ah, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que ça me fait penser vraiment à la publicité des années 70. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. J'ai l'impression que c'est ça. En France, on n'a pas de produits de sécurité, mais on a des idées.
Si on doit revenir justement sur la différence avec les autres pays, je ne sais pas si c'est le cas, je pense quand même un petit peu. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de problème d'argent pour l'ANSSI et autres. Et ça, il y a très peu de domaines en France où c'est le cas. Ça marque vraiment de la prise de conscience qu'il y a des besoins. Et que c'est, on le sait tous, nous, plutôt un investissement qu'une dépense à très court terme. Là, je suis assez content, effectivement, que ça soit confirmé à travers la stratégie qui a été évoquée il y a une semaine.
Nicolas ?
Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je trouve que le titre est bien choisi, nous en épargner le cyber et digital, félicitations. C'est ce que je retiendrai de positif dans ce document.
Non, le document, il est globalement excellent. Après, on a plein de remarques sur des détails, mais les remarques auraient pu être inverses si on avait répondu à nos attentes sur ces détails. Donc, c'est un très beau document qui fait hommage à la compétence, la capacité, la vision que l'on est capable d'avoir en France.
Et je pense qu'on a surtout tous beaucoup d'espoir par rapport à ça et on espère que tout va se réaliser.
Moi, je mettrais aussi un bon point à la PAO avec une mise en page très claire, des couleurs, des graphismes. Pas trop de banque d'images à la con avec des gens qui sourient en réunion autour d'une tasse de café vide, mais plutôt des illustrations originales. Donc la PAO est vraiment très très bonne.
As-tu vu que c'était des licences libres, licences ouvertes ?
Licence Etalab V1. Donc document en licence ouverte qu'on peut réutiliser. Je suppose que ça s'applique aussi aux illustrations.
Alors par contre, je sais pas si c'est le sujet, mais je sais pas si vous avez vu les clips faits. Je sais plus par, c'est pas de Sigref ou un truc comme ça.
Oui, par le Sigref, oui.
Ah, là, il y a de la cagoule et du 01 et du Matrix. Hein.
Oui, mais j'ai quand même bien aimé. Je les ai tous regardés.
J'en ai vu qu'un, mais.
Ils sont quand même assez énormes.
Bon, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.